France Culture.
À voix nue, Sylvie Gastaud.
Jacques Lichille, metteur en songe du théâtre de l'Unité.
Aujourd'hui, quatrième entretien, les mille et une fêtes. Hier, Jacques, nous avons vu que le théâtre de l'Unité s'était emparé d'une ville et l'avait mise en fête. Attardons-nous aujourd'hui sur la fête, car tu en es un fin connaisseur. Alors, quels en sont les ingrédients ?
Oh là là, c'est arrivé, en fait, c'est une drôle d'histoire. C'est qu'à la mort de mon père, j'avais un tout petit peu d'argent et j'ai décidé, mais j'arrive plus à savoir pourquoi, d'aller voir un carnaval d'Amérique du Sud à Trinidad. Trinidad et Tobago. C'était un voyage très étrange puisqu'il fallait aller au Venezuela. Et du Venezuela, il fallait prendre un bateau de pêcheur et qu'il y avait une grande tempête et que j'ai cru que j'allais mourir et qu'on est arrivé brûlé par le soleil à Trinidad. Et là, j'ai assisté à quelque chose qui m'a complètement subjugué. C'est que là, c'était vraiment toute une ville qui était déguisée complètement et qui, sous forme de bande, défilait dans les rues, défilait derrière des camions sonorisés. Ça commençait à 4h du matin. Et les gens payaient leurs costumes eux-mêmes. Il n'y avait pas de production comme on fait chez nous. Où il faut des dossiers de subvention et tout. C'est vraiment une fête magnifiquement spontanée. C'est là que je voyais qu'il y avait des grands designers américains qui participaient, que c'était pas uniquement les gens qui inventaient leurs costumes, il y avait des modèles de costumes qui étaient donc dessinés par avance et conçus. Et puis là, il y a eu un moment, ils ont défilé, 2000 personnes portaient au-dessus d'eux un énorme drap blanc. Dans un premier temps, le drap faisait vraiment presque un kilomètre de long, hein. C'était énorme, il remuait, c'était très joli. Et puis juste après, le drap repassait pollué avec des couleurs dessus. Voilà, c'était splendide. Je suis revenu à 50 ans d'Yvelines, j'ai dit écoutez, hein, j'ai assisté à un truc trop exceptionnel, il faut qu'on fasse pareil. 24 heures de fête, démarrage 4 heures du matin. Impliquer les habitants qui se payent leurs costumes eux-mêmes, qui fabriquent eux-mêmes des spectacles, etc. Il faut faire comme eux. Hein. C'est pas possible que ce soit si coincé de la fête en France. Voilà. C'est là qu'on a commencé. Pareil, d'inciter les gens à faire des ateliers. On donnait un thème. On a donné comme thème l'eau. On a donné comme thème le baiser.
La bouche.
On donnait les thèmes, et voilà que tous les gens s'enfermaient dans leur garage et fabriquaient des petites bandes. Hein. Alors c'est pas comme en Amérique du Sud, c'est pas 100, hein, c'était des petites bandes, mais il avait des très belles.
Ah, sur le thème de la bouche, oui, il y avait des dentistes qui nous poursuivaient dans la rue,
oui,
pour nous mettre dans des fauteuils.
Il y avait, par exemple Alain Béziel qui avait fait un chariot avec plein de poésie, c'était très beau.
Momo D'Artaud.
Oui, voilà. On a remarqué que les gens suivaient, qu'il y avait vraiment de l'envie d'être ensemble, hein, voilà. Donc on avait peur du 4h du matin, tu parles, on distribuait des croissants à 4h du matin en faisant de la musique, tout le monde était absolument ravi, les fenêtres s'ouvraient, bonjour, voilà, vos croissants vous portent du café, etc. Il y avait vraiment de la grande amitié, je sais pas comment appeler ça, entre les gens, hein. Puis ça durait 24 heures, le soir on faisait un grand spectacle, avec de l'eau, avec du feu, oh là là, c'était mal préparé, hein. C'était ça qui était bien, c'est là qu'il y a eu un carnaval des ténèbres avec Zingaro, avec son cirque de rats, c'est là qu'on apprenait des chansons ensemble, ça galvanisait la ville. C'est là qu'une fois, alors on avait, donc peu à peu, on avait même des idées de faire venir des vedettes surprises, sans prévenir les gens.
Ah, je m'en souviens.
Oui, on était allé draguer Jacques Higelin, qui à l'époque était un peu inaccessible, hein, mais par son frère qui venait au match d'improvisation au Bataclan. Et puis il y avait un des guitaristes qui vivait à Élancourt. On a réussi à avoir rendez-vous avec Jacques Higelin. Moi, j'étais terrorisé parce que je l'admire un peu, je l'admirais. Mais Hervé, elle s'en fout, elle l'aime pas. Alors, bonjour Jacques, voilà. Alors, on va faire une grande fête. Et ce qu'on aimerait, c'est que tu viennes chanter mais juste 3 chansons, mais le public ne le sait pas. D'accord? Aucune publicité. D'un seul coup, tu débarques et ça commence. Et les gens disent, oh putain, c'est Jacques Higelin. Pas possible.
Alors, moi, je m'en souviens. Il y avait une rumeur, en effet, que Jacques Higelin viendrait. Oui. Et à un moment donné, il y avait un piano emballé sur scène. Et il y a eu un petit coup de vent, on a vu que le piano était rouge. On s'est dit, c'est peut-être lui.
On lui a dit, écoute, on n'a pas l'argent du tout. Hein. Est-ce que tu es prêt? Ce qu'on va faire, on va déranger ton concert. On ne veut pas que ça soit, toi, on t'achète pas, il n'y a pas de cachette. Donc, on va déranger ton concert. Hervé dit, je vais t'envoyer du son, de la calasse, en même temps qui va te couvrir. Et puis en même temps, il y a les pompiers qui vont balancer de la mousse. Et en même temps, il y a le groupe éphémère qui va balancer un feu d'artifice. Est-ce que tu serais OK? D'accord, il est OK, donc il est OK. Il dit, est-ce que je pourrais avoir un défraiement d'essence tout de même pour amener mon piano? Et l'administrateur de l'époque, il dit, on t'a dit qu'on n'avait pas l'argent. Oh, je dis, attends. Jacques Higelin gratuitement, on va tout de même trouver quelques moyens tout de même de trouver 200 balles pour lui payer son voyage. Voilà, finalement, ce qui s'est passé était l'horreur, hein. Tout est prêt, ça allait commencer. Orage énorme, et Jacques dit, on s'en fout, je reviens demain. Donc on passe dans la ville avec une voiture de sonorisation, attention, demain, grande surprise, etc. Derrière la maison pour tous, tout ça, voilà, etc. Et le lendemain, c'est carrément la magie totale.
Sur les immeubles.
Oui.
Sur les immeubles, il y avait Diabolo.
Oui.
À l'harmonica.
Ah oui, d'accord, oui.
Non, ça a commencé comme ça, pour nous.
Et bien sûr, c'est totalement magique, hein, ce qui se passe. C'était un carnaval, c'était l'ingrédient de la surprise. Voilà, il y a l'ingrédient de la surprise, très important pour nous, hein, ne pas bien prévenir, ne pas bien annoncer que les gens aient vraiment des choses qui leur explosent au visage. Hein. Même le réveil à 4 heures du matin, on disait pas on va vous réveiller à 4 heures du matin. C'est vraiment quand on est à la trappe, c'est vraiment trois harmonies qui jouent ensemble dans les rues de trappe et dans les quartiers square de la commune, ça s'appelait, non?
Les oui.
Dits difficiles, voilà, et les gens ouvrent leurs fenêtres et personne nous a jeté de l'eau ou nous a tiré dessus. Hein. C'était vraiment trop bien, hein. Trop bien, voilà.
En même temps, Jacques, ça faisait un an qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose.
Oui, peut-être, je ne sais pas comment.
Parce que l'attente est magnifique.
Oui,
aussi. Même si on est surpris, l'attente est magnifique.
On avait énormément d'alliés, de gens, de petits. Donc il n'y a pas de réseau à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux. Le réseau social, il est du bouche à oreille, voilà, c'est tout. Hein. Donc on garde tout de même des grands souvenirs. Surtout ce qui est impressionnant, c'est que 20 ans après, on est convoqué pour parler de cette ville nouvelle et tout le monde revient et dit « Oh là 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 là, depuis que vous êtes partis, quelle tristesse, vous n'êtes plus là, oh là là, ça nous a tous marqués parce que ça s'est très mal terminé cette affaire. » Mais là, c'est très dur de le raconter comment ça s'est terminé, hein. C'était un parti politique, dont je dis pas le nom, qui profitait de ce carnaval des ténèbres pour se faire une caisse noire et pouvoir se payer une grosse propagande pour les élections. Voilà. Voilà, quand on a su ça, on était furieux. Donc on a voulu le dire à la presse, ils nous ont empêchés de le dire à la presse. Donc ça s'est terminé en procès. On a interdit, on a dit que nous, les démissionnaires, on voulait pas un carnaval dirigé par les politiques. On avait déposé le titre, Carnaval des Ténèbres, donc ils n'avaient pas le droit de s'en servir, donc ils ont eu des amendes. Voilà.
Quelques années plus tard, à Montbéliard,
ouais.
Ça va être le réveillon des Boulons.
Oui, on met du temps avant de trouver le titre, on appelait ça Carnaval Mécanique, etc. Et puis il s'avère que la ville veut faire une fête pour le rattachement de Montbéliard à la France en 1793. Donc en 1993, on a quelques moyens pour faire une nuit de réveillon, voilà. J'avais appris que le 31 décembre, les télés étaient en recherche de sujets. Et donc, c'était pas une mauvaise idée. Le maire de Montbéliard, quand il a vu que le lendemain du réveillon, il était sur toutes les chaînes, Montbéliard fait la fête, Montbéliard ceci, cela, Il disait, mais finalement, ça nous a rien coûté, parce que quand on voit le prix d'une annonce à la télévision, à une heure de grande écoute, eh ben, on a parlé de Montbéliard, il était très très fier de nous. Et là, on était les rois à Montbéliard. Après le premier réveillon de 93, on a demandé au maire de... Ça s'appelait pas le réveillon des Boulons, je crois, le premier. Il s'appelait rattachement de Montbéliard à la France. C'est après qu'on a appelé ça réveillon des Boulons. Alors c'était bien, parce que mon père était fabricant de boulons, pour la deux chevaux, et que tous les ouvriers de là-bas s'y retrouvaient. Et donc il y avait ces machines en plus, et donc c'était un défilé de machines invraisemblables. Peu à peu, on avait fait pareil, des bandes qui se retrouvaient, tout le monde faisait sa bande, les protestants, les MJC, les villes. Il y avait une émulation, une ébullition absolument incroyable. On avait notre secret. L'ingrédient majeur, c'était une ville veut faire un vieil ours, voilà, parce que c'est le symbole. Mais nous, on envoie Claude Accard, qui doit diriger les ateliers ours. Et Claude Accard leur montre des nouvelles méthodes pour faire des ours. On avait partout, à tous les postes, des professionnels qui arrachaient le réveillon des Boulons à Disneyland. Parce que les villes, quand tu les laisses seules, elles font du Disney. Hein. Elles ont que ça comme idée. Voilà. Donc ça avait beaucoup, beaucoup d'allure. On invitait des grands groupes. C'est là qu'il y a le groupe qui est devenu très connu, le groupe F, qui est maintenant mondialement connu, qui venait... On leur disait, venez, on va pas vous payer cher, mais venez faire des essais nouveaux, etc. Donc ils nous envoyaient des machines qui faisaient du feu, c'est formidable et tout. Et tout ça, c'était en grande amitié, parce que tous les groupes de tête de rue, c'est tous un peu nos amis. Donc ils acceptaient de jouer par moins 15, etc. C'était vraiment une fête. Et là où je me réjouissais, c'est que quand le plombier vient régler la chaudière chez moi, il me dit... On me dit que c'est vous le réveillon des Boulons. Oh là là, quel bonheur. Et je voyais que plein de gens qui sont pas de notre milieu, qui sont pas de notre bord, qui sont, voilà. Parce que mon rêve à moi, c'est de pas toucher seulement l'intelligentsia théâtrale, ni les gens qui sont de notre bord, mais toucher des gens qui votent Front National. Moi, c'est mon rêve, hein. Je veux les avoir avec moi, ces gens-là. Et c'est pas si facile que ça, hein. Voilà. Et là, tout le monde y était. Je disais même, en guise de provocation, celui qui n'a rien vu de la scène nationale du Centre d'art et de plaisanterie cette année pourra venir à partir de minuit chercher un chèque de 20 € à l'hôtel de Sponeck. Voilà. Alors, tout le monde disait, c'est dangereux, Jacques, ce que tu fais. Mais non, je dis, s'ils viennent à minuit à l'hôtel de Sponeck, je leur dis, attends, tu viens de passer par un énorme réveillon, donc t'as vu quelque chose, donc je te donne pas 20 €. Voilà, c'était comme ça. C'était vraiment le but de toucher tout le monde. Voilà, ça me galvanise encore aujourd'hui de me dire il faut vraiment que les lieux culturels, une fois, c'était tous les 2 ans, hein, touchent la population tout entière et de telle manière que ça reste dans les mémoires, qu'il y ait une énorme rémanence. Et pareil, ce réveillon des Boulons, il s'est terminé à Montbéliard, il y a 20 ans que c'est terminé et les gens en parlent encore. Hein.
Donc de l'eau. Du feu,
oui,
la nuit.
Oui, bah, tous les ingrédients de la fête. Non, pour nous, la fête, c'est des rues trop étroites. C'est être trop serré, c'est avoir trop de monde au même endroit. C'est toujours trop de monde. Et beaucoup de feu, effectivement. Du réchauffement, de la boisson et de la musique. Il y avait plein de groupes de musique à Montbéliard, partout. J'avais pris ça à Trinidad, les camions sonores. Qui, boum, boum, les basses qui galvanisaient tout le monde, tu vois. C'était comme une rave party, un peu. On dansait tous derrière les camions, on défilait à 4 h du matin, boum, tout le monde se balançait, c'est trop beau, quoi. On essayait de faire pareil, on n'y arrive pas en France, mais on arrivait tout de même à une certaine atmosphère, tout de même. On arrivait à une belle atmosphère, on a des films qui montrent ce que c'était et comment. Et donc, on était devenus les rois, puisque tous les hôtels étaient pleins, puisque toutes les familles en profitaient pour dire, viens à Montbéliard, il y a le réveillon, etc. Donc, tous les gens accueillaient leur famille, parce que tout ça, il y a des diasporas montbéliardaises, hein. Tous les gens du pays de Montbéliard, ils ont de la famille un peu partout. Ils revenaient tous pour Noël. Ça faisait toute une émulation magnifique. Ma mère à 90 ans, je la voyais encore en chaise. Regardez ça, c'est incroyable.
J'ai lu que la première fête que vous aviez faite avec le Théâtre de l'Unité, c'était la fête du tunnel.
Oui, je sais. Là, tu reviens à longtemps, oui.
Oui, je reviens à longtemps.
Ben oui, parce que le théâtre de l'Unité était hébergé dans l'usine de mon père, qui donnait sur les carrières de Meudon, et on avait un grand tunnel où on mettait tous les décors. Les tunnels, ils étaient très longs, ils pouvaient aller, je sais pas, jusqu'à Versailles, c'était énorme, c'est des mûrisseries de bananes. Et donc, une fois, pour se faire connaître un peu, on invitait toute la presse à venir dans notre tunnel d'ici les Moulineaux. Voilà, et il y avait que des bougies, c'était très dangereux, parce que si on se perdait, on se retrouvait plus le chemin, c'était des labyrinthes, et c'était très, 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 très magique. Je me souviens qu'il y a une journaliste du Monde qui est venue s'aventurer là. On essayait de se faire connaître par tous les moyens, parce que le grand problème des troupes de théâtre, c'est ne pas rester dans l'anonymat. Après, une fois qu'on était un peu plus connu, on cherchait de l'anonymat, mais voilà, maintenant, ça dépend des jours. De temps en temps, on a envie de vivre caché, de temps en temps, on a envie de vivre un peu plus connu. Voilà.
Et dans ce tunnel, il y avait de la nourriture, parce que oui. C'est quand même quelque chose qui est essentiel pour toi, la nourriture.
Il y avait plein de nourriture, bien sûr, partout de la nourriture. Et après, ça a continué de nous accompagner, la nourriture. Il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de pièce qui ne soit pas accompagnée de quelque chose. Vania est accompagnée par une soupe, Mozart au chocolat par une tasse au chocolat, Macbeth par on servait un verre de whisky, Rimbaud par un verre d'absinthe. Nous, on ne supporte pas qu'un spectacle se termine sans un moment où on est avec le public, tout près du public.
Il y a eu le festin du bourgeois gentilhomme, oui, ça c'était extraordinaire.
Oui, toujours, on a toujours fait des... Oui, mais là on a travaillé avec une cellule de cuisine historique, c'était magnifique. Ils préparaient la cuisine pendant 5 jours, ils reconstituaient un festin du XVIIe siècle, avec les recettes incroyables qui existaient sous le temps de Molière. Oh là, c'était magnifique ça, c'est vrai. 34 femmes qu'on avait invitées à ce festin, 34 femmes, parce qu'on avait lu que le bourgeois gentilhomme à Chambord, les gens mangeaient ensemble, et le roi invitait à sa table 34 femmes. Donc il y avait 34 femmes du public déguisées en XVIIe siècle et tout. Oui, on a toujours aimé le... Hier, c'était dans un grand théâtre national, et quand je vois que la salle se vide comme un lavabo et que personne se retrouve, que même pour trouver un artiste, il faut attendre dehors dans la pluie, je trouve ça lamentable, toi. J'espère que ça va changer, il paraît que ça va changer.
Vous avez fait aussi avec le Théâtre de l'Unité, vous avez fait aussi des fêtes extrêmement courtes, des manifestations de joie, par exemple.
Oui, oui.
Une grande fête du malheur.
Oh, oh là là, c'est incroyable ce que tu me racontes. Oh là là, oui.
Alors,
oui, à la suite du théâtre, j'en ai plusieurs, parce qu'à la suite du théâtre pour chiens, c'est justement, je crois que c'est France Culture, nous a invités à faire un réveillon à Gennevilliers pour les chiens. Donc ce soir-là, on a récité des poèmes aux chiens et on allait de cage en cage et il y avait plein de gens qui pleuraient. Les chiens sont tellement tristes quand on s'occupe d'eux. C'était un direct de France Culture. Je me vois, je donnais les recettes de mon oncle Seigna, les recettes russes pour le réveillon. Et après, c'est devenu un jour la fête du malheur. C'est la ville de Thionville qui nous demande une fête. On trouve la ville tellement triste qu'on dit on va faire une fête du malheur. Il y aura que des requiems, et il y aura que des expositions de cercueils, et que des musiques tristes, et que des spectacles qui font pleurer. Ben, on n'a pas été retenu, mais on l'a fait chez nous, hein, la fête du malheur. Ce qu'on a fait, ouvrir un supermarché la nuit, parce que pour nous, c'est les grandes églises du malheur, les supermarchés, les grandes cathédrales. Et on a demandé qu'il y ait de la musique sacrée dans le supermarché. Donc, notre public, voilà, c'était 200, 300 personnes. Et nous, on faisait des images dans le supermarché, des mariés en roller, je me souviens plus, on faisait plein d'images, pendant que la sécurité était cachée derrière les derrière les victuailles, pour pas qu'on vole. Voilà, mais c'est le Cora de Montbéliard qui avait accepté de nous ouvrir le supermarché à 23h30.
Il y avait une sono pourrie.
Sono pourrie, musique religieuse, etc. Mais c'était des images fortes, voilà.
Toutes les fêtes tournent mal et c'est pour ça qu'elles sont drôles.
Oui.
Donc, il y a eu aussi des mariages, qui sont aussi normalement des fêtes.
Oui, oui, bien sûr, parce que je suis allé, c'est par hasard à Londres que j'assiste à la répétition du mariage de Diana. Je reviens à l'Unité, je leur dis, écoutez, là, j'ai un spectacle formidable en vue. C'est vraiment un spectacle, le mariage. J'ai vu la fausse robe de Diana, c'est incroyable. Donc on fait fabriquer une énorme robe, on s'achète des costumes de mariée, on se met à défiler dans la ville d'Élancourt. On voit que tout le monde, etc. Et enfin, un mariage qui tourne mal. Voilà, la mariée se jette sur l'autoroute, le marié s'entend plus avec elle, la belle-mère gueule, etc. Et ça devient... Peu à peu, on développe le concept, on va dans les mairies, on fait des faux mariages dans les mairies, il y a souvent 400, 500 personnes, on a des chansons, on sort, et donc la mariée, il y avait toujours le suicide de la mariée, soit elle se jette dans la Seine, soit elle se jette sur l'autoroute, et là, on est arrêté par... On est arrêté par la police, qui ramasse la mariée, qui dit « qu'est-ce qui se passe ?»« Mais mon mari m'aime pas, etc. » Et puis, il voit qu'il y a plein de monde qui rit, qui regarde des ponts de l'autoroute, là. Et la police dit « c'est pas drôle du tout », donc ils emmènent les mariés, ils les enferment, le public suit. Et devant le commissariat de police, ça s'est passé à Créteil, je crois, on entend « libérer les mariés ». Voilà, on n'a jamais eu d'amende pour ça, pourtant c'est hyper dangereux. Notre mariée était un peu folle. On a une photo, et c'est magnifique, une robe blanche sur l'autoroute. C'est une quatre voies, hein, mais c'est même très dangereux. On voit toutes les voitures qui passent. Enfin, c'est très, 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 très étonnant. Oui, ce mariage qui tournait toujours mal.
Il semble que les enterrements soient moins ratés que les mariages.
Oui, enfin, parce que tu parles de faux enterrements. On fait un spectacle, oui, mais c'est, ça s'appelle Vivez votre propre mort. On a des cercueils. On invite les gens à essayer leur cercueil avant de mourir. C'est dans la fête du malheur, ça, c'est un extrait. Et donc, nous, on est sûr que personne va vouloir rentrer dans le cercueil. Donc, on a des gens, des barons, comme on dit, des comparses, qui vont rentrer dans le cercueil. Pas du tout au moment où on dit, est-ce que quelqu'un veut essayer un cercueil? Si vous savez, avant de mourir, vaut mieux savoir où vous allez passer le reste de votre mort. Eh ben, il y a des gens qui lèvent la main. Et peu à peu, on enferme les gens dans le cercueil. Après, on développe des scènes très drôles. Après, on le fait à Haïti. À Haïti, ils ont des mariages, des enterrements très gays, où ils chantent énormément de vaudou. Et donc, ça devient un vrai spectacle qu'on joue dans les festivals de théâtre de rue, magnifique. Avec les Haïtiens, là, parce qu'ils chantent trop bien. Hein. Oui, tu en as encore des fêtes?
À propos des enterrements, tu as fait aussi une fête, un faux enterrement de ta mère. Je ne sais pas si...
Ah oui, oui, c'est dans un anniversaire, j'arrive, c'est dans un film, ça, que ma nièce a tourné, oui. J'arrive avec mon accordéon et j'arrive vers ma mère qui a 90 ans, elle est... Madame, je viens pour votre enterrement, vous allez mourir, etc. Alors, voilà, fermez les yeux, vous allez voir. Et ma mère joue très bien la fausse morte. Oh, elle dit, il y a beaucoup de monde à mon enterrement, je suis très contente, etc. Voilà, et on chante et tout. Elle était mignonne, ma mère, elle faisait ça très bien. Après, on a fait le vrai enterrement de ma mère, que je voulais à la Tchekhov, le rire à travers les larmes. Voilà, alors écoutez, quand elle meurt à 94 ans, c'est pas très triste, hein, voilà. Je racontais des anecdotes qui faisaient rire, en plein milieu du Père Lachaise. Enfin, c'était une vilaine crémation.
D'ailleurs, elle avait dit, ne prenez pas de rabbin, c'est trop cher, Jacques fera très bien l'affaire.
Voilà, oui, elle avait dit ça. Exact, elle avait dit ça, puis après, on est allé l'enterrer au cimetière, et alors là, on faisait avec mes sœurs des formules sacrées, il faut verser de la vodka sur l'urne, il faut chanter. C'est là que va commencer, si tu veux, le rapport orchestra. C'est-à-dire, on demande à tout le monde de chanter sur la tombe une vieille chanson russe. Toutes les nièces, les petites nièces qui ont 10 nana, qui ont toutes 14 ans, se mettent à chanter, voilà. Et peu à peu, va se développer dans notre famille le goût de la musique familiale, hein. Pour fêter tous les anniversaires, peu à peu, ma fille Dana, Christophe se met à jouer de la trompette, Dana est au violon, elle entraîne sa fille, on entraîne le neveu, tout le monde fait de la musique, et peu à peu, on a une formation musicale de 17 personnes, qui vient souligner toutes les fêtes, tous les mariages et tous les enterrements, et c'est magnifique. Voilà.
D'ailleurs, tu avais dit que pour une famille, le plus important, c'était pas d'être ensemble ou de vivre ensemble, mais de jouer ensemble.
Ouais, ben c'est bien. C'est très intelligent ce garçon qui dit ça. Oui, ben oui, c'est. Après, j'ai même dit pour une société, il s'agit pas de ça. Il s'agit de dormir ensemble. C'est là que je fais dormir les gens ensemble. Que je mets 400 personnes à dormir dans un gymnase et pour assister au spectacle La Nuit Unique. Voilà.
Moi, j'ai participé en tant que spectatrice à cette Nuit Unique. Oui. On était dans un gymnase, mais j'ai quand même le regret de pas avoir été dans le foin. Comme il y a eu certaines représentations ont eu lieu dans le foin.
Oui, mais il y a la sécurité qui veut pas. de temps en temps, quand le lieu culturel n'est pas trop connu, il arrive à mettre de la paille. Et c'est très joli dans la paille. Mais on n'a pas le droit de fumer, quoi. Hein. Voilà.
Alors la nuit unique, c'est vraiment la fête des mots aussi.
Mais la nuit unique, c'est notre dernier. Enfin, pour moi, c'est le dernier. Bon, après, il y a eu Rimbaud. On dit toujours on termine, mais non, c'est. On a voulu rassembler tout ce qu'on a fait dans notre vie. Alors moi, j'ai rassemblé mes poèmes. Il y a des chanteuses, tous les chants qu'on a aimés. Et puis on a surtout rassemblé les metteurs en scène qu'on a aimés. Et donc on a fait des imitations de cantors, des imitations de Pina Bausch, plein d'imitations de spectacles qui sont pas de nous, mais les gens ils croient que c'est de nous, hein, alors qu'on copie. C'est tout. C'était. On a rendu hommage à tout ce qu'on a aimé dans notre vie. Et plus l'intimité, parce qu'on a beaucoup travaillé l'intimité de nos comédiens. Donc Hervé Delafont raconte, c'est même pas supportable. Elle va raconter le suicide de son frère en détail avec le rapport de police et sur une musique de piano. Et je veux dire qu'on a dit ce texte, tout le monde sort, on veut pas l'écouter tellement c'est dur, voilà. L'autre raconte le divorce. Chacun raconte des histoires à lui. Hein, c'est très très émouvant. Moi, je raconte aussi le chambon sur l'Ignon et je me mets même à chanter en russe avec la voix de Vysotsky, voix d'alcoolique.
Tu reçois un coup de fil de ton père aussi.
Oui, voilà.
Je me souviens, ah, oui. Il te demande tout de suite si la déesse, on revient toujours aux voitures. Hein.
Bonne mémoire, hein, oui.
Si la déesse oui, est toujours la voiture préférée des Français.
Je suis comme tout le monde, je rêve que mon père revient. Hein, et mon père me pose des questions et c'est trop bien de dire à un père qui est mort il y a 40 ans ce qui s'est passé. Il me demande. Je lui dis, papa, l'Union, son pays, c'était l'Union soviétique, lui, c'était la Russie, l'Union soviétique. Et je lui dis, l'Union soviétique n'existe plus. Il dit, c'est pas possible, avec l'accent russe qu'il avait, pas possible. Mais oui, le mur de Berlin est tombé, mais pas possible. Et tu sais, maintenant, on a tous dans nos mains un tout petit boîtier qui s'appelle le téléphone portable. Pas possible, mon père, il dit, mais c'est pas vrai, tu vas pas. Hein. Puis il me demande, t'es toujours aussi minable, Jacques, je suis sûr que tu joues pas dans un canteen. Oui, papa, c'est vrai. Je joue dans un vieux gymnase. Il dit, tu resteras toujours le même. Pauvre Jacques. Mais tu gagnes ta vie tout de même. Oui, ça va, papa, ça va.
Alors le théâtre, il peut réveiller les morts.
Voilà. Ah ben, disons. Oui, c'est une phrase de Genet que j'ai toujours gardée dans mes carnets, que je connais par cœur. Le théâtre doit être une flagration si forte que par ses prolongements, elle réveille le monde des morts. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et souvent dans les stages, alors il y en a peu qui arrivent quand je dis « dites la poésie, mais réveillez les gens d'en dessous ». En fait, il y a les Haïtiens qui arrivent. Il n'y a qu'eux qui arrivent à parler aux morts. Nous, quand on dit les poèmes en France, c'est pas assez avec le corps, c'est trop la bouche. Et moi, j'aime bien l'idée qu'on réveille les morts. Ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup.
Mais on soigne les vivants.
Ça, c'est pas moi, c'est Tchekhov encore. Enterrer les morts, réparer les vivants. Enterrer les morts, réparer les vivants. Platonov. Oui, c'est des phrases de Tchekhov que j'ai même plus. J'ai tellement de phrases, tu sais. J'ai tellement de vie, j'ai des carnets remplis d'aphorismes. Alors, je peux t'en dire.
Oui, parce que tu es graphomane.
Oui, voilà.
Et moi, je te trouve plutôt polygraphe. Ah. Merci, Jacques Lifshin. Il fait nuit. C'est l'heure de faire la fête. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle montagne à escalader.
Ouais, mais ça va prendre un an tout ça, tellement c'est long à raconter.
C'était À Voix Nue, cette semaine, avec Jacques Lifshin. Réalisation Anne Fleury, prise de son Johanna Gabric, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Sylvie Gasteau, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.